On est ensemble jusqu'à 21h et on va se faire un petit tour d'Europe dans l'intégral tour. On ira à l'Alpe d'Huez retrouver Cyril Guimard à 18h20 pour revenir sur cette belle victoire française de Thibaut Pinot. À Budapest où Hamilton s'offre devant Rosberg une 5e pole position d'affilée. On en parle dans les experts à 18h30 à Londres avec Renaud Lavillenie qui gagne encore 6m03. Cette fois on sera avec Marie Zévan GP. Nous sommes à 4 semaines des championnats du monde d'athlée à Pékin et puis Saint-Pétersbourg. C'est le lieu de tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 et l'équipe de France attend toujours les adversaires dans son groupe. 18h05 sur RMC, la première édition d'RMC Sport. C'est avec Guillaume Laniel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Le Tour de France, 3e victoire française sur ce Tour 2015 dans la mythique étape de l'Alpe d'Huez.
Ouais, on parlait il y a quelques instants. Et quel numéro de Thibaut Pinot qui s'impose dans cette 20e étape qui était aussi la dernière explication entre les favoris. On rejoint tout de suite pour revenir sur ce joli numéro de Thibaut Pinot. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Salut Guillaume.
4 ans après Pierre Roland, 2 ans après Christophe Riblon, Pinot s'impose à l'Alpe d'Huez et signe la plus belle victoire de sa carrière.
Oui, on avait coutume d'appeler l'Alpe d'Huez la montagne des Hollandais, mais depuis quelques années, c'est vrai, ça devient la montagne des Français après Pierre Roland, après Christophe Riblon. Aujourd'hui, Thibaut Pinot qui signe une victoire de prestige, la plus belle victoire de sa jeune carrière. Lui qui avait déjà triomphé sur les routes du Tour il y a 3 ans, lui qui avait aussi terminé, on s'en souvient, l'année dernière sur le podium du Tour de France. Et bien aujourd'hui, après un Tour de France difficile pour Thibaut Pinot, et bien il conclut la plus belle des manières cette édition en 2015. Lui qui était passé tout près de la victoire à Mende l'autre jour, lorsqu'il avait été battu sur le fil par Cummings, lui qui avait terminé également 4e alors qu'il était sur le point de rattraper un coureur mais qui avait chuté dans la descente du col d'Alos, et bien aujourd'hui il prend sa revanche. Et quelle revanche, parce que l'Alpe d'Huez est évidemment la plus belle des récompenses pour un coureur cycliste, c'est l'étape reine, et aujourd'hui Thibaut Pinot a vraiment le grand sourire. Autre sourire mais un peu plus crispé, celui de Christopher Froome qui va remporter demain son 2e Tour de France. Christopher Froome a souffert aujourd'hui sur les de l'Alpe d'Huez. Il a été mis à mal par Nairo Quintana qui a attaqué, qui lui a repris du temps, mais l'écart entre les deux hommes était trop important ce matin, 2 minutes 38. Il perd 1 minute 20 aujourd'hui, mais il reste évidemment leader de ce Tour de France avec 1 minute 12. C'est l'un des écarts les plus faibles de ces 10 dernières années. Il faut remonter à 2008 et la victoire de Sastre sur Evans avec 58 secondes d'écart pour voir un écart aussi faible à l'arrivée du Tour de France.
Merci Christophe. Honneur au vainqueur Thibaut Pinot qui savourait sa victoire tout à l'heure sur la ligne d'arrivée.
C'est surtout du stress là. La joie, c'était surtout les 200 derniers mètres parce que j'avais pas d'écart, j'avais rien du tout. Donc voilà, quand j'ai vu que la voiture était encore derrière moi à 500 mètres, je savais que c'était gagné. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de malchance, mais voilà, j'ai jamais rien lâché, j'ai toujours cru, j'ai jamais pensé à l'abandon ni rien. Donc voilà, jusqu'à ce soir, il fallait que je me batte pour essayer d'accrocher une étape et de justesse, j'ai réussi à en gagner une. Gagner devant les bras, c'est quand même quelque chose, surtout à l'Alpe d'Huez, c'est assez spécial et ça, c'est quelque chose qu'on retient dans une carrière, c'est vraiment quelque chose qu'on retient. Ouais.
Thibaut Pinot au micro de Pierre Ikten, le vainqueur du jour reste 16e au classement général, à désormais 38 minutes de Christopher Froome. Une satisfaction donc avec Pinot, mais une déception pour Romain Bardet. Le Français qui termine 18e de l'étape a perdu aujourd'hui son maillot à poids, mais il en aura profité.
Beaucoup de fatigue, je pense que j'ai payé ma nuit blanche d'il y a 2 jours. Voilà, j'avais simplement rien dans les jambes aujourd'hui, dans la dernière montée, j'ai vite trouvé mes limites. Après voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, on avait une équipe très soudée, super moment dans la croix de fer, Jean-Christophe, voilà, qui s'est donné sans compter encore une fois, et voilà, c'était des belles images, j'avais des frissons, très encouragé sur le bord des routes avec ce maillot, donc voilà, mais j'ai savouré au maximum et j'ai aucun regret.
Voilà, Romain Bardet avec Pierre Ikten. Bardet toujours 9e au général et premier français. Et puis on le disait, hein, l'étape a été difficile pour Froome, en difficulté hein, sur les derniers kilomètres. Le Britannique termine malgré tout 5e et devrait remporter donc hein, son 2e Tour de France demain. Chris Froome.
C'est gagné, mais c'était très difficile aujourd'hui. Nairo, il a attaqué très fort et je me sens fatigué. Les jambes sont mortes, mais j'avais fait le maximum aujourd'hui. C'est incroyable. On a fait le course contre le coureur, contre le public, contre tous. Mais je voudrais dire un grand merci à tout le public qui est venu. C'est ça le Tour.
Voilà, tout sourire, Chris Froome, demain, 21e et dernière étape, évidemment, sur les Champs-Élysées.
Et on en parle avec Cyril Guimard dans 10 minutes maintenant, en direct de l'Alpe d'Huez. Le foot maintenant, et c'est l'équipe de France qui attend, Guillaume.
Ouais, avec le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2018, le tirage se déroule en ce moment en Russie. La France, on vous le rappelle, n'est pas tête de série et peut tomber sur un gros morceau comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. On rappelle que les qualifications auront lieu du 4 septembre 2016 au 10 octobre 2017.
On est en plein mercato.
Et l'actualité des transferts, c'est avec Camille Gelpi. Bonjour Camille.
Bonjour à tous.
Et après la Sanadira, l'Olympique de Marseille réfléchit à un nouveau pari.
La semaine dernière, nous vous révélions que Marseille surveillait la situation d'Abou Diaby. Eh bien, selon nos informations, l'Olympique de Marseille dispose d'un accord oral avec le joueur. Un accord basé sur un salaire de base et des primes selon un nombre de matchs joués dans l'année. Diaby est connu pour ses problèmes physiques. Il a donc déjà échangé avec le staff médical de l'OM et notamment avec le docteur Christophe Baudot. Mais les craintes subsistent tout de même à Marseille. Le club n'a pas encore finalisé le dossier et réfléchit en parallèle à une autre piste. De son côté, Diaby est très intéressé par le projet, mais il est aussi en discussion avec West Bromwich, club pour lequel il a même passé la première partie de sa visite médicale.
Sur le dossier Di Maria, Manchester United et Paris sont toujours en négociation.
Le Paris Saint-Germain a fait une offre de 65 millions d'euros avec bonus. Manchester en espère 75 millions, son prix d'achat. Mais les dirigeants du PSG sont optimistes et espèrent un dénouement rapide. Un proche de Di Maria a confié à RMC c'est qu'il espérait que Manchester assouplisse sa position dans les prochaines heures car le joueur, lui, veut signer dans le club parisien. Il s'est entretenu ces derniers jours avec Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore et il leur a répété son envie de les rejoindre. Ses relations avec l'entraîneur mancunien Louis van Gaal sont froides. Sa famille ne se plaît pas à Manchester. Il serait donc d'accord sur un contrat de 4 saisons avec un salaire net supérieur à 10,5 millions d'euros. Son agent Georges Mendes est en discussion quasi quotidienne avec le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, lui qui a souvent l'habitude de transférer ses joueurs par doublette, a proposé un autre de ses poulains au PSG, William Carvalho, le milieu du Sporting Portugal. Thiago Motta veut quitter le club et Paris doit lui trouver un remplaçant. Des discussions ont donc été entamées autour du milieu de terrain. Le Sporting demande 35 millions d'euros.
Merci Camille, toute l'information, donc toutes les informations de transfert. On va parler de matchs amicaux également. Martial avec le Celtic Glasgow qui a battu Rennes 2-0. Et puis en ce moment, Arsenal écrase Lyon 4-0. Oula. On est à la mi-temps de la rencontre. Et puis l'autre mauvaise, l'autre mauvaise nouvelle, c'est la sortie sur blessure, aïe aïe aïe, de Clément Grenier. On rappelle que cette semaine, Gaïda Fofana a annoncé qu'il ne jouerait pas avant janvier 2016. Et puis la victoire aussi du Milan AC contre l'Inter 1-0 avec un but exceptionnel du français Philippe Mexès. Et puis rappelons que ce soir à minuit heure française, le PSG affronte Chelsea.
Et d'ailleurs, le but de Philippe Mexès est à voir sur notre site rmcsport.fr. La Formule 1, le Grand Prix de Hongrie et les Mercedes toujours devant.
Ouais, ça se passe à Budapest où l'on rejoint sans plus tarder Louis Amar. Salut Louis.
Salut Guillaume.
Tu as suivi les qualifications ce samedi, qualification dominée par Lewis Hamilton évidemment.
Impressionnant encore Lewis Hamilton, 9e pole position en 10 Grands Prix cette saison, la 47e de sa carrière. Seul Michael Schumacher et Ayrton Senna ont fait mieux. Sur un circuit étroit où les dépassements sont rares, la route est donc toute tracée pour une nouvelle victoire demain. Ça serait sa 5e déjà ici à Budapest. Personne ne semble pour l'instant en mesure de briser son hégémonie. Personne, pas même Nico Rosberg, son coéquipier, sur la même voiture, équipé du même moteur. Il s'est retrouvé cet après-midi 6 dixièmes derrière le Britannique, autant dire un gouffre, et il suffisait de voir sa mine défaite et son regard de glace pour comprendre qu'Hamilton est tout simplement au-dessus en ce moment.
Et Louis, tu l'as rencontré, hein. Lewis Hamilton et le Britannique étaient ravis de sa prestation.
Ce week-end a été fantastique jusqu'ici. Les séances d'essai se sont très bien passées et vraiment j'ai réussi une belle qualif. Ce week-end, je voulais progresser dans ce domaine parce que les dernières fois, en Q1 et en Q2, ce n'était pas terrible. Des bons tours, des mauvais, beaucoup d'erreurs. Donc là, je voulais vraiment faire une belle Q1, puis une belle Q2 et tout donner en Q3 jusqu'à réussir le tour parfait. Et j'ai réussi. Donc je suis incroyablement heureux. Maintenant je sais que la course sera très dure, mais je la sens bien.
Satisfait le champion du monde en titre, Louis, la bonne nouvelle de la journée aussi est venue de Romain Grosjean.
Oui, il partira 10e, c'est un miracle. Et c'est Romain Grosjean lui-même qui le disait, un beau rayon de soleil dans un week-end qu'il prédisait très sombre. Hier encore, le Français annonçait que les Force India seraient probablement devant lui. Finalement, non. Pérez et Hülkenberg n'ont pas passé la Q2. Et grâce à un tour parfait en toute fin de séance, Grosjean a réussi à se hisser dans le top 10. Il peut espérer grappiller quelques points demain et retrouver le sourire après ses deux abandons consécutifs en Autriche et en Grande-Bretagne.
Merci Louis, on te retrouve demain évidemment pour le Grand Prix de Hongrie ce dimanche, 14h.
Et elle part pas trop loin, Louis, hein, parce que tu seras avec nous aussi dans 15 minutes dans les experts.
Je reste là.
L'athlétisme et ce samedi la suite du meeting de Londres.
Et après le retour très convaincant du Usain Bolt, c'est Renaud Lavillenie aujourd'hui qui a signé une très belle performance. Le Français a remporté son concours et surtout il a passé 6m03. Il s'agissait de sa dernière sortie avant les Mondiaux qui débuteront le 22 août à Pékin. L'entraîneur du Français Philippe Dancos n'est pas étonné par cette performance.
Surpris, non, parce que on avait quand même quelques repères après Monaco, là où on dirait à Monaco, il fait 5,92, 5,82, débarque avec une grosse marge. Donc, vous savez que si Londres, on avait la chance d'avoir un temps un peu plus lent, il y avait bonne chance pour que ça marche bien. Il faut aussi retenir ces tentatives à 6-10 qui sont pas loin du tout. Donc, c'est encourageant, c'est bien. Il faut quand même considérer qu'il peut sauter plus haut que ça.
Philippe Dancos, qui a joint pour RFC Benoît Boutron. En rugby, petite alerte pour Vincent Debatty, toujours gêné par un mollet, et Pascal Papé, qui se sont arrêtés en cours d'entraînement ce samedi à Tignes avec le groupe France.
Le tennis, Benoît Paire est en finale à Bastad.
Ouais, le français vient de s'imposer face à Pablo Cuevas en 2-7, 6-4, 6-3. Il jouera demain sa troisième finale en simple face à Tommy Robredo, déjà vainqueur à deux reprises du tournoi. On rappelle que le français n'a jamais gagné de tournoi dans sa carrière. D'autres français qui brillent, on le rappelle. Manarino est en demi-finale à Bogota, il affrontera demain Ivo Karlovic. Et puis Gaël Monfils, lui aussi en demi-finale à Umag en Croatie, il a battu en 3-7 Philippe Kohlschreiber. Il jouera son prochain tour face à Dominique Thiem. Et puis une bonne nouvelle pour toi Martial, Maria Sharapova est de nouveau célibataire. La Russe a confirmé qu'elle avait mis fin à sa relation avec le Bulgare Grigor Dimitrov.
Il doit pleurer ce soir.
Voilà pour cette information hautement capitale. Et puis un dernier mot de boxe avec une chance mondiale cette nuit, c'est à souligner, à Las Vegas pour le boxeur français Najib Mohamedi. Il affronte l'un des meilleurs boxeurs du monde actuellement, le russe Sergei Kovalev. En jeu, les ceintures IBF, WBO, WBA, des poids mi-lourds.
Merci Guillaume, on te retrouve à 19h pour la deuxième édition d'RMC Sport. On part à l'Alpe d'Huez dans quelques instants avec Cyril Guimard. Et une victoire française aujourd'hui à l'Alpe d'Huez, celle de Thibaut Pinot. Et un Chris Froome qui a souffert mais qui conserve son maillot jaune.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
18h17, l'Intégral Tour. L'heure de retrouver Cyril Guimard, comme tous les soirs, qui est à l'Alpe d'Huez ce soir. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir.
Cyril, avec une victoire française à l'Alpe d'Huez pour cette 20e étape, victoire de Thibaut Pinot qui s'est imposé, je vais rappeler le classement, avec 18 secondes d'avance sur le Colombien Nairo Quintana. Esgedal, le Canadien, est à 41 secondes. Valverde et Froome à 1.38. Pierre Roland est à 1.41 à la 6e place. Et puis Nibali et Contador sont plus loin puisqu'ils ont concédé 3.30 sur Thibaut Pinot. Chris Froome, je le dis tout de suite, mais on va en reparler, conserve le maillot jaune pour 1 minute 12. Cyril, on s'est régalé aujourd'hui avec une concrétisation pour Thibaut Pinot qui s'offre sa deuxième victoire d'étape personnelle dans un Tour de France.
Oui, une très belle étape à tout point de vue avec une victoire française, une course pour la victoire ici en haut de l'Alpe d'Huez, une victoire sur cette montée mythique. Et puis, on savait qu'il y allait avoir la dernière explication pour la victoire sur ce Tour de France entre Christopher Froome et Nairo Quintana. La bagarre a bien eu lieu. Elle a commencé d'ailleurs dès le départ sur le col de la Croix de Fer. La différence ne s'est pas faite à ce niveau-là. Sur la montée de l'Alpe d'Huez, eh bien, il y a eu ce bras de fer entre Froome et Quintana. Et Quintana n'aura malheureusement pas repris suffisamment de temps. Il avait repris quelques secondes déjà hier, mais pas suffisamment. Sur les deux jours, il revient à 1.12. Il était à 3 minutes 10. Il n'a repris que 2 minutes. Ça n'était pas suffisant. Alors, a-t-il bien couru ou pas? A-t-il fait les efforts ou là où il fallait les faire et comme il fallait les faire? Ça, c'est une autre histoire. Une chose est certaine, Froome avait bien tué le tour sur la première étape des Pyrénées à la Pierre Saint-Martin.
Alors Cyril, pour revenir sur cette victoire de Thibaut Pinot, l'Alpe d'Huez qui est en train de devenir une spécialité française, on pensait que c'était une spécialité néerlandaise finalement, troisième victoire consécutive au sommet de l'Alpe. En 2011 on avait Pierre Roland, 2013 Christophe Riblon, et là c'est Thibaut Pinot, ça veut dire que les Français cochent cette étape?
Mais ils ont envie surtout d'avoir des invitations pour passer l'hiver. Ils aiment bien l'Alpe d'Huez. Ça leur permet.
Ils viendront skier.
Ils viendront skier. Non, je plaisante, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça a souri aux Français. Dans d'autres domaines, il y a des choses qui ne sourient pas. Mais on reste les maîtres sur ces trois dernières arrivées. Et puis aujourd'hui, une vraie victoire d'un vrai grimpeur qui s'est hisser au niveau des meilleurs sur cette traversée des Alpes. D'ailleurs, à l'image de tous les Français, hein, puisqu'il y avait donc Romain Bardet qui ce matin était parti avec le maillot à pois, mais qui s'était imposé il y a deux jours. Pierre Roland qui a été présent hier, rejoint juste dans le final par Nibali, qui est encore à l'avant aujourd'hui. Une traversée des Alpes qui a été très bénéfique pour les Français. Et ça nous a réconforté parce que depuis le départ du Tour, en dehors de Villermoz sur Amur de Bretagne, on était un petit peu triste, on était un petit peu fanny quand même sur ce Tour. Au classement général, les Français au départ avaient beaucoup d'ambition, deuxième et troisième et sixième l'an dernier. Rappelez-vous, Perrault, Pinot et Bardet sixième. Et là, au bout de quelques jours, plus aucun espoir d'être sur le podium, voire dans le top 5. Tout le monde traînait un petit peu sa misère, il y en a un qui avait un petit peu de bronchite, l'autre qui avait des bobos à soigner, et on s'est dit là, oh là là, on est parti, ça va être la cata. Eh bien non, l'air des Alpes a revivifié nos champions.
Et d'ailleurs, tu parlais du classement général, Romain Bardet va terminer 9e à 16 minutes de Froome, Roland 10e, Barguil 14e, Thibaut Pinot 16e, et puis on a Michael Chéral aussi qui est à la 18e
place.
Place.
Ouais, donc,
Pinot tenace quand même, parce que d'un point de vue personnel, il avait connu deux premières semaines vraiment difficiles.
Oui, on attendait une réaction d'orgueil, comme on l'attendait aussi de Romain Bardet, y compris de Pierre Roland. On pourrait presque ajouter Nibali, qui s'est mis à l'heure française en l'emportant hier. On a eu une réaction d'orgueil des Français, l'envie de ne pas terminer sur un échec, de sauver leur Tour de France, mais en même temps de sauver le Tour de France de leur équipe. Ça, c'est parfait. On a eu des champions méchants. Et c'est ce que souvent on peut reprocher, même quand on fait 6e, 7e ou 8e, on dit ah ben je suis content, je me suis fait plaisir. On a un discours un petit peu ambigu. Et là, on a retrouvé quand même des coureurs méchants qui ne sont pas contents, se fâchent quand les choses se passent pas correctement. C'est ça les vrais champions. Les vrais champions sont ceux qui à un moment deviennent tueurs. Et le dommage, c'est qu'il faudrait l'être tout le temps. Alors, j'ai qu'un vœu, c'est que Romain, Pierre Roland et Thibaut Pinot deviennent des vrais tueurs à l'image des Fignon, des Thévenet et des Bernardino.
Et les Chris Froome aussi, Cyril. Chris Froome, donc, qui va s'offrir son deuxième tour. Est-ce que je me trompe si je dis que pour Chris Froome, heureusement que le tour se termine par rapport à Quintana?
Bien, il va un petit peu décrescendo hein, depuis l'entrée des Alpes. Il est comme tout le monde. Hein, il y a un moment où la machine commence un petit peu à lâcher. Le problème, c'est qu'il avait pris suffisamment d'avance. Alors sur ses rivaux directs, Quintana, Valverde, Nibali, rappelez-vous sur cette première étape à Zeeland où il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y a eu des chutes, il y a eu des cassures. Et tous ces coureurs-là ont perdu au minimum une 30, une 40 sur le premier groupe, dans lequel d'ailleurs se trouvait Chris Froome. Et ça a été... Ça a été le premier chaos des adversaires directs de Christopher Froome. Il y a eu le contre-la-montre par équipe, mais là, bon, les écarts n'ont pas été très importants. Puis il y a eu cette première étape pyrénéenne où là, il a mis des crochets, des uppercuts, des paires de claques et des coups de pied aux fesses, et il s'est retrouvé donc avec plus de 3 minutes d'avance. À partir de ce moment-là, il n'avait plus qu'à gérer. Et puis, bon, plus qu'à gérer avec une équipe qui est quand même au-dessus du lot. Je veux dire, au même niveau que l'équipe de Quintana et Valverde, mais elle est quand même, il est pratiquement impossible de la mettre en difficulté. Hier, ça a failli, mais ils s'en sont quand même bien sortis.
Alors, au classement général final, ça va nous donner sans doute, donc, Froome premier, deuxième, Quintana 1-12, Valverde qui va chercher un podium, 5-25, Nibali à 8-20-36, le vainqueur sortant terminera quatrième, et puis Alberto Contador, cinquième à 9-48. Est-ce que, quand on voit Quintana comme ça sur une troisième semaine, Cyril, on se dit ce garçon doit gagner le Tour un jour.
Oui, il faisait déjà partie de mes favoris parce que je pensais que c'est lui qui allait l'emporter.
Ça confirme alors.
Oui, ça confirme. Bah, attendez, vous savez, à 23 ans, il fait déjà deuxième du Tour de France en faisant une dernière semaine absolument extraordinaire. Vainqueur d'étape sur cette troisième semaine, vainqueur du classement de la montagne. L'an dernier, à 24 ans, il remporte le Giro. Il est donc à sa place en tant que deuxième. Il s'est rapproché quand même de Christopher Froome, puisque maintenant il n'est plus qu'à une 12. Alors l'année prochaine, il sera encore le client. Je pense qu'il progressera encore. Je ne pense pas que Froome continuera à progresser. Je pense d'ailleurs qu'il n'a pas progressé cette année par rapport à il y a deux ans. Donc Quintana, oui, a démontré qu'il était le candidat désigné pour remporter les prochains Tours de France.
Il n'y a pas de regret à avoir pour lui.
Si, pour Quintana, il y a des regrets à avoir, ne serait-ce que sur les stratégies de course hier et aujourd'hui, où ils ont utilisé une stratégie qui n'est pas la plus, on va dire, intelligente pour faire exploser un leader et ses équipiers.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'après toi, Cyril?
Eh ben, il fallait sacrifier Valverde, mais sacrifier Valverde, ça voulait dire aussi,
le sortir
du podium. Valverde n'a jamais été sur un podium, du Tour de France, donc c'était un petit peu ambigu. Mais Valverde, au train, devait faire sauter les équipiers, et ensuite il pouvait y avoir un mano à mano avec Froome et avec Valverde. Vous savez, c'est quand vous faites une première accélération, une deuxième accélération, que votre équipier fait une accélération et ensuite une autre accélération, et que ce sont les équipiers du leader qui règlent l'allure derrière, vous mettez en danger et vous faites beaucoup plus d'efforts que le leader, entre autres Christopher Froome, alors qu'il fallait le mettre carrément dans un combat homme à homme avec Quintana, et là je pense que les écarts auraient été plus importants, surtout hier où Quintana attaque dans les 5 derniers kilomètres à peine, sur des pentes qui ne sont pas très importantes, il ne pouvait pas faire d'écart énorme. Mm-hmm. Il aurait fallu qu'il reprenne au moins une 30 hier pour pouvoir aujourd'hui dire je vais en reprendre une 30 et je ferai l'affaire. Ça n'a pas été le cas, tant pis. Tant pis pour lui, tant mieux pour Froome.
On commence à entendre les hélicoptères autour de toi, Cyril, à l'Alpe d'Huez. On te retrouve quand même tout à l'heure, hein, à 19h, avec toute la Dream Team pour revenir sur cette 20e étape. Puis demain, c'est la 21e. Hein. Sèvres-Paris, 109 500 km, le défilé, puis sans doute un sprint sur les Champs-Élysées. À tout à l'heure, Cyril.
À tout à l'heure.
Nous, dans un instant, c'est la Hongrie, notre destination pour revenir sur cette séance de qualification et la pole position pour Lewis Hamilton à Budapest.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
18h30 dans l'Intégral Tour. On est ensemble jusqu'à 21h. On ira à Londres dans quelques minutes pour revenir sur la belle performance de Renaud Lavillenie au meeting d'athlétisme avec un saut à 6m03 et une victoire dans le concours du saut à la perche. Mais d'abord, la Formule 1, le Grand Prix de Hongrie, les qualifications aujourd'hui. Et autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas eu vraiment de surprise.
RMC, les experts F1.
Bonsoir Jean-Luc Roy.
Bonsoir.
Ça va? Bonsoir Louis Amar.
Bonsoir à tous.
Alors je le disais, pas de surprise sur la grille de départ. Demain, 14h pour ce Grand Prix de Hongrie avec Lewis Hamilton devant Nico Rosberg. Ensuite on a Sébastien Vettel sur sa Ferrari et Daniel Ricciardo. Puis Raikkonen sur l'autre Ferrari. Première Williams seulement, j'ai envie de dire sixième cette fois, avec Valtteri Bottas. Kvyat, l'autre Red Bull Renault septième. Massa huitième avec sa Williams. Verstappen et sa Toro Rosso 9e, et puis Romain Grosjean sur Lotus à la 10e place. Alors pour Hamilton, les chiffres sont quand même assez impressionnants. 9e pole position en 10 courses, Jean-Luc.
Oui, effectivement, on le dit depuis le début de la saison, en tout cas depuis quelques Grands Prix maintenant, il est intrinsèquement plus rapide. Je crois que c'est pas contestable hein, sur un tour, puisque Nico Rosberg n'est parvenu à arracher qu'une pole sur les 10 qui ont été attribués, ou plutôt que Lewis a arraché haut la main. Au total, eh bien, ça en fait 47 quand même à sa carrière, ce qui est absolument formidable.
C'est pas mal.
C'est dire que devant lui, il n'a plus que Michael Schumacher et Ayrton Senna à 65 pôles. Donc c'est dire qu'il a accédé largement à la troisième position. Non, il est remarquable. On a l'impression qu'il est quelque part au sommet de son art. Meilleure voiture, meilleure équipe et puis tout lui réussit.
Et il est devant son coéquipier Nico Rosberg aussi. C'est toujours important pour marquer le coup, pour lui enfoncer un peu plus la tête. On va l'écouter, Lewis Hamilton. On parle de qualité de pilote, mais en ce moment, c'est la sérénité absolue. Lewis Hamilton.
Oui, rien n'est fait pour dimanche. On a encore beaucoup de boulot demain. Mais je pense qu'on peut déjà être content. Je ne me rappelle pas avoir eu de si bonnes performances que ce week-end. Je suis très heureux, mais on sait qu'il y a encore de la route à faire car ce Grand Prix est très exigeant physiquement, mais également mécaniquement pour les voitures. Mais j'ai confiance en mon équipe et en ma monoplace et j'espère vraiment qu'on va bien conclure ce week-end.
Louis, on se demande ce qui pourrait l'empêcher de bien conclure ce week-end parce qu'en plus ce circuit... C'est un circuit qui lui réussit particulièrement.
Alors c'est un circuit qui lui réussit particulièrement. On peut se souvenir par exemple que l'année dernière, il était parti de la voie des stands, il s'était planté dans le premier virage, et puis en fait, il avait quand même réussi à terminer troisième. C'est-à-dire qu'il avait doublé quasiment l'intégralité des pilotes sur un circuit où on répète qu'il est extrêmement difficile de dépasser. C'est un tracé qui ressemble un petit peu à celui de Monaco par exemple. Lewis Hamilton pour l'instant, c'est le week-end parfait. Meilleur temps lors des trois premières séances d'essais libres, meilleur temps en Q1, meilleur temps en Q2, meilleur temps en Q3, pole position. Et là... c'est vraiment une très très belle pole position. Il atomise littéralement son coéquipier Nico Rosberg. On parle quand même de 6 dixièmes de seconde. Dans un sport comme la Formule 1, 6 dixièmes de seconde, ce n'est pas rien, c'est énorme. Rosberg nous l'a dit lui-même tout à l'heure, c'est gigantesque 6 dixièmes de seconde. Donc là, il y a vraiment du souci à se faire pour Nico Rosberg. Il est en train de laisser filer Hamilton et sans doute ne le reverra-t-il plus.
Justement, Nico Rosberg, Jean-Luc, qui dit « j'ai fait tout pour la pole ». Et j'ai raté mon coup.
Et oui, alors il a.
Comment l'expliquer ça?
C'est-à-dire qu'il faut tout mettre bout à bout. C'est bête à expliquer, mais il y a trois secteurs hein, en général, et donc on peut lire la performance d'un pilote avant même qu'il la réalise dans le dernier virage. C'est-à-dire qu'on a le temps, secteur par secteur, de voir quel est le pilote le plus rapide, à quel moment, etc. Et Nico, à un moment, s'était plaint d'ailleurs de sous-virage. À un moment, dans certaines de ses tentatives, ça veut dire que c'est le museau de l'avant de la voiture qui glisse vers l'extérieur. Donc, et ça, c'est très mauvais sur ce tournant. Niqué hongrois, c'est comme ça qu'on baptise, effectivement, on n'y voit pas de malice de ma part, c'est comme ça que l'on baptise ce tracé de 4
km. Ça fait rire Louis qui est là-bas.
380, ça le fait glousser, même si j'entends bien. Donc effectivement, quand on commence à glisser de l'avant, on n'y voit aucune malice toujours, eh bien effectivement, c'est le train avant qui se détériore, et si le train avant se détériore, ça veut dire qu'on est de plus en plus mal au fur et à mesure du Grand Prix, et qu'il faudra peut-être compter au moins sur 2 arrêts dans le cadre de cette stratégie. Alors, là aussi, tout peut toujours arriver dans un arrêt, même si c'est bien écrit, et même si l'équipe Mercedes est la plus performante de toutes les équipes de Formule 1 lors des arrêts. Mais bon, ça veut dire que, effectivement, l'histoire n'est jamais totalement écrite, même si la domination, soyons clairs, d'Hamilton sur ce Grand Prix, a priori, elle devrait s'exercer.
Alors, pour encore un chiffre, peut-être, messieurs, pour illustrer l'hégémonie de Lewis Hamilton. Donc, l'année dernière, en Hongrie, il avait eu un problème en qualif, son moteur avait pris feu, et il était parti de la voie des stands. Depuis un an, donc depuis le dernier Grand Prix de Hongrie, il est toujours parti en première ligne, c'est-à-dire sur l'une des deux premières places de la grille de départ.
C'est un beau chiffre, en effet. On parlait des écuries, Red Bull Renault, qui vient, j'allais dire, s'insérer dans la cour des grands sur cette saison, avec Ricciardo quatrième, et puis Kvyat qui est septième. Oui. Est-ce qu'elles sont en progrès? Comment expliquer qu'elles soient si haut dans la grille?
Alors, l'importance du moteur est moindre, parce que c'est un circuit sinueux, nous l'avons dit, il n'y a qu'une vraie ligne droite, donc effectivement, la puissance, entre guillemets, développée, et la vitesse de pointe sont moins importantes. À l'inverse, le châssis et l'appui qu'il procure est plus important. Donc effectivement, ça semble corroborer un peu ce que nous dit Red Bull, Christian Horner et même Toro Rosso, qui sont équipés de moteurs Renault, c'est que quand le moteur n'est pas primordial, eh bien, les qualités des monoplaces sont mises en avant. C'est un petit peu le cas ici. Alors, il y a un nouveau carburant, c'est ce que Louis nous a appris, effectivement, un nouveau carburant total un petit peu plus performant pour les moteurs, mais je crois que c'est quand même surtout vraiment une affaire de châssis, de réglage et d'appui. L'appui aérodynamique, c'est ça le plus important ici, comme à Monaco, comme Louis l'a évoqué tout à l'heure.
Vettel qui, au niveau chrono, Louis, est proche de Rosberg. Finalement, il y a 2 dixièmes de seconde entre les deux, même pas. Est-ce que ça veut dire, si, comme Jean-Luc le disait, Rosberg a des problèmes sur sa voiture demain en course, est-ce que Vettel peut aller briser l'hégémonie des doublés Mercedes qu'on a depuis quelques temps?
Ça veut dire que Sébastien Vettel, sans aucun doute, aura une vraie opportunité demain, et notamment au départ, parce que Nico Rosberg, après une série de départs plutôt réussis, a vraiment eu du mal il y a 3 semaines à Silverstone. Il faut voir si cela va perdurer. En tout cas, Vettel, qui effectivement a tourné très rapidement cet après-midi, peut espérer prendre un bon départ demain, même si ensuite, on le répète, c'est très difficile de dépasser. Donc si Sébastien Vettel, dans la première grande ligne droite ou dans le premier virage à droite, ne parvient pas à dépasser, il aura du mal ensuite à grimper sur les deux premières places du podium.
Les experts F1 sur RMC, on est en train de revenir sur cette grille de départ du Grand Prix de Hongrie demain avec en première ligne, sans surprise, Hamilton devant Nico Rosberg. Romain Grosjean, lui, avec sa Lotus, est à la 10e place. Jean-Luc, on va l'écouter. Romain Grosjean, finalement heureux d'être à cette place-là aujourd'hui.
Comme dirait mon fils, j'ai bien goudiné la voiture, j'ai bien conduit la voiture. Non, c'est vrai que c'est une belle qualif, un miracle qu'on soit dans le top 10, pour être honnête. On s'y attendait pas du tout. Donc voilà, le dernier tour en Q3, on a souffert un petit peu, mais dans l'ensemble, après le week-end qu'on a eu, c'est un petit miracle d'être là. J'ai la chance de pouvoir faire de la Formule 1. Vous savez que la semaine qu'on a eue, on se rend compte que voilà, des fois, il faut profiter du moment, profiter de ce qu'on aime et se donner à 100%. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà, on peut être heureux d'être ici.
Voilà, Romain Grosjean qui faisait bien sûr allusion
à Jules Bianchi,
au décès de Jules Bianchi
et à l'enterrement de Jules auquel il était présent mardi.
Et justement, Louis, demain, il y aura un hommage rendu au pilote français qui est décédé vendredi dernier.
Une minute de silence, en effet, qui est prévue à 13h45, un quart d'heure avant le départ. Il y aura sans doute une mise en scène également des pilotes sur la grille. On va voir comment tout cela va se passer. Mais en tout cas, cette minute de silence promet d'être poignante. Et puis, dès aujourd'hui, on a vu que la promesse avait été tenue par les pilotes de rendre un hommage à Jules Bianchi, à la fois sur les casques, sur les monoplaces. Il y avait différents messages inscrits soit par les pilotes eux-mêmes, soit par les écuries, pour rendre hommage à la mémoire du Français disparu.
On a l'impression, Jean-Luc, que c'est vraiment sincère, le mouvement là de la F1 pour Jules.
Ah oui, écoute, j'étais mardi matin avec Patrick Tambay, nous étions aux obsèques de Jules dans la cathédrale de Nice, et je peux te dire que c'était effectivement poignant. Le mot est précis. J'ai pleuré, nous avons pleuré. Il y a pas de honte. Il faut le dire. Il faut l'avouer. C'était très lourd. On a tous fortement pensé à Jules et à toute sa famille qui était là présent, et les pilotes de F1 dans leur immense majorité étaient là, et beaucoup avaient les yeux rouges, ne l'ont pas dissimulé. Donc c'était un moment poignant. C'est évidemment totalement sincère.
Et c'est un vrai choc pour ces pilotes-là, parce que comme ça faisait 21 ans qu'aucun pilote n'était décédé dans un accident en course, tous les pilotes aujourd'hui ont vécu cette situation pour la première fois, à voir l'un des leurs disparaître, et ça leur rappelle évidemment le danger d'un sport tel que la Formule 1.
Demain, la course, Louis, quelles conditions météo? Parce qu'il y avait fait chaud ces jours-ci du côté de la Hongrie. Ce sera quoi demain le temps?
On va respirer un peu demain, ouais. On va perdre 10 degrés, on va passer a priori de 38 degrés à 28 degrés dans l'air. Ça sera toujours évidemment très chaud sur la piste, on approchera les 40 degrés sur la piste.
C'est rien, et ça puis... pour eux.
Non, ça va pour 40 degrés, ça fait jamais que 55 dans la voiture, donc donc finalement tout va bien.
Et encore, les voitures sont ouvertes, heureusement, oui. C'est pas d'endurance, ouais.
Exactement. Et puis très peu de vent, c'est bien ça le problème, c'est que c'est chaud et très 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 sec, très peu de vent, parce que c'est une cuvette, ce circuit en bordure de Budapest, une cuvette dans laquelle le vent ne pénètre quasiment jamais.
Voilà, là aussi on appelait ça le chaudron à l'époque, en 86, lors du premier Grand Prix de Hongrie, quand on a découvert ce théâtre, et qui est fantastique, parce que les spectateurs sont massés tout autour, en fait, tout autour de cette colline, et donc, y a pas de vent dans la cuvette, effectivement, il y a pas de vent, c'est chauffé à blanc, et là, c'est vraiment.
Et on double pas, alors, dans ce.
On a beaucoup de mal. Il faut provoquer la faute de l'adversaire juste devant, sans toucher, normalement.
Rendez-vous F1, demain, le départ en intégralité à 14h, Motors, à partir de 13h.
À partir de 13h, voilà, on va vous donner toutes les clés, naturellement, et puis revenir sur cet hommage à Jules Bianchi, bien sûr.
Très bien, messieurs, demain, donc 14h, l'athlétisme, Marie-Gévan GP avec nous dans quelques instants pour revenir sur le concours de saut à la perche de Renaud Lavillenie. C'était en début d'après-midi du côté de Londres, avec un saut à 6,03 m et une victoire pour le Français.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et 18h44 sur RMC, avant de parler athlétisme, juste un petit mot de foot pour vous dire que ça a pris un petit peu de retard du côté de la Russie en ce moment, le tirage au sort des poules de qualification pour la Coupe du Monde 2018, et on attend bien sûr de connaître les 5 adversaires de l'équipe de France, et on s'approche dans quelques minutes, on aura le tirage au sort pour la zone européenne. Pour vous dire aussi que ça s'arrange pas pour l'Olympique Lyonnais, match amical face à Arsenal, et les Lyonnais, après 66 minutes de jeu, sont menés 5-0 par les Londoniens. Et Londres, justement, on va en parler avec la belle performance de Renaud Lavillenie au meeting londonien.
RMC France Olympique.
Maryse Evangé-P est avec nous. Salut Maryse.
Bonjour.
Alors Maryse, je parlais de la performance de Renaud Lavillenie, 6m03 cet après-midi dans un concours de saut à la perche. On va le rappeler qui hier avait été reporté à cause des conditions météo de la pluie sur Londres. Aujourd'hui, c'était un concours avec des conditions parfaites. Renaud qui fait 6-0-3. On a aussi un jeune Canadien dont on va parler, Sean Barber, qui à 21 ans améliore son record personnel avec 5-93. Déjà Maryse, pour Renaud, 6-0-3, comme ça, à 4 semaines des championnats du monde de Pékin, bah, c'est très rassurant et très intéressant.
Bah, ça claque, hein. non, c'est
on l'attendait au tournant, c'est vrai, hein.
Bah, on l'attendait au tournant, oui et non, parce qu'il nous a montré quand même tout récemment que ça y est, il était de retour et qu'il n'y avait pas, non plus péril en la demeure, parce qu'il y a eu un petit coup de moins bien, un petit coup de calgon à un moment donné. Renaud, c'est un garçon qui saute beaucoup, aussi bien à l'entraînement d'ailleurs qu'en compétition. Et c'est vrai qu'on s'était interrogé à un moment donné, on s'est dit aïe aïe aïe, on se rapproche des championnats du monde et il fait signe de fatigue, parce que c'était surtout ça finalement qui nous embêtait, le signe de fatigue. Bah franchement, ça n'a pas duré, quoi. Et puis revenir à 6m03, sa deuxième performance cette année après les 6m05 réalisés en début de saison, bah c'est plus qu'encourageant. C'est la preuve que il est de nouveau tout en haut et que ce sera aux autres de lui mettre la pression quelque part.
Et alors tu parles d'être tout en haut, il est en forme. On va écouter son entraîneur Philippe Dancos quand on parle de l'état de forme comme ça de Renaud à moins d'un mois des championnats du monde. Je rappelle que les championnats du monde d'athlètes à suivre évidemment sur RMC, ce sera à partir du 22 août. Philippe Dancos, l'entraîneur de Renaud Lavillenie.
On n'est jamais en forme trop tôt ou trop tard. Je crois qu'il faut surtout être en forme au championnat du monde, mais c'est quand même mieux d'arriver au championnat du monde avec le plein de confiance. Donc non, c'est bien. Je veux dire, il a attaqué la saison avec 6-0-5, il a une première partie de saison qui termine avec 6-0-3, donc c'est pas mal, quoi.
Voilà, Philippe Dancos, joint par Benoît Boutron. Maryse, c'est vrai que Renaud avait fait 6-0-5 au tout début de saison, hein, c'était du côté de Eugene. Là, il fait 6-0-3, il y avait eu un petit trou au milieu, et dès qu'il y a un tout petit trou d'air avec Renaud Lavillenie, forcément on se pose des questions, mais bon, voilà.
Alors c'est pas dès qu'il y a un tout petit trou d'air, c'est que surtout on n'avait plus l'habitude tout simplement, oui. Et que là le trou d'air ça paraissait presque vertigineux, puisqu'on a eu les 6m05, puis 5m91, 5m85, 5m71, donc ça descendait, et surtout avec, parce que c'était pas tellement les performances qui nous avaient inquiétés, mais surtout le fait qu'il se fasse battre, alors que c'est un garçon qui déteste perdre, mais en même temps c'est pas parce qu'il déteste perdre qu'il est invincible, ouais. C'est tout autre chose. Mais c'est vrai que la saison de Renaud, elle est quand même assez impressionnante, parce que même si cet été il n'est pas sorti autant que ça finalement, sur l'ensemble de sa saison depuis le 10 janvier, c'est sa 20e compétition. Donc c'est un garçon qui est en permanence finalement sur le terrain et qui a été un petit peu partout, qui a été du côté de Eugene aux États-Unis, on l'a dit, qui a été du côté de Monaco, de Londres, de Prague, de Malmö, tout ça c'était sur l'hiver. Ça a énormément bougé finalement.
C'est un choix assumé comme ça de beaucoup sauter?
Oui, je pense qu'il a besoin de ça, parce que sinon c'est trop dur, enfin c'est trop long d'attendre. On le sait, Renaud il est assez exceptionnel même à l'entraînement. Il y a aucun autre perchiste au monde qui est capable d'aligner les séances techniques qu'il s'envoie avec des sauts jusqu'à 30, 50, 60 répétitions et même plus, ce qui est assez incroyable. Il faut des heures pour faire ça, mais couper cette espèce de boulimie d'entraînement et cette capacité, parce qu'il a une endurance hors du commun, cette capacité à s'entraîner en toutes circonstances tout le temps et à remettre sans arrêt son travail sur le métier, et ben c'est aussi de faire des compétitions. Et en 2014, il a fait la même chose, il a énormément sauté. C'est pas un garçon qui va choisir 4 compétitions dans l'année, comme on a pu le voir pour Usain Bolt, par exemple.
Alors, il a tenté cet après-midi 3 fois 6m10 avec les deux premiers essais, qui étaient plutôt pas mal, bien engagés pour Renaud Lavillenie. Benoît Boutron a demandé à son entraîneur, Philippe Dancos, tout à l'heure, le record du monde. Est-ce que Renaud l'a dans les pattes en ce moment?
Oui, il en a les plus à citer, oui. Après, je veux dire, c'est même pas la question et même pas l'objectif. Je crois que dans son cas, le principe, il est de gagner la seule compétition qu'il a jamais gagnée. Donc l'objectif, il est là. C'est-à-dire, s'il gagne avec 5m80, il sera content.
Et c'est clair, parce que Maryse, on le rappelle, Renaud Lavillenie, c'est incroyable, hein, mais n'a jamais été champion du monde en plein air de saut à la perche.
Oui, mais voilà, il y a encore des objectifs et c'est tant mieux. Ça reste un objectif fort, parce que champion du monde, c'est un enjeu aussi important que champion olympique. En tout cas, c'est la même concurrence. Et c'est vrai qu'il a échoué par 2 fois. Alors la toute première fois, il était encore jeune, ça n'était pas lui le favori. La seconde fois, par contre, il l'était très clairement, très nettement, et on a été très étonnés de son ah, j'ai horreur de poser le mot d'échec sur une médaille mondiale, mais on est obligé de dire ça quand on voit la succession de performances qu'il a. Et il est évident que c'est son seul objectif. Mais là où il est surprenant, justement, Renaud, c'est que même si son objectif est très clairement le titre mondial, ça ne l'empêche pas, encore une fois, de faire une saison pleine et entière et complète, y compris aussi en se faisant plaisir, y compris aussi en rendant service à son club, puisqu'on l'a vu, par exemple, au mois de mai, faire un 110 mètres haies et faire du 100 longueur. Mmh. On peut se dire, pour tout autre champion de cet acabit et de cette envergure, ça semble presque impensable. Imaginez Usain Bolt, où le club dit que ça serait cool que tu ailles faire un petit saut en hauteur et puis un 400 pour nous dépanner. Ça pourrait dépanner, remarque, sur 400. J'aimerais bien l'avoir dans mon club, mais ça paraît totalement impensable. Ouais. Lui, il en est là, c'est-à-dire que c'est un garçon qui maintenant fait ce qu'il veut, prend du plaisir où il veut, rend service où il veut, peut aller donner le coup d'envoi pour un match de rugby, peut aller se balader, peut faire des sorties, peut aller faire de la moto, ce qui paraît là encore inimaginable pour tout autre. On dirait, mais t'es complètement barré, on fait pas de la moto quand on est un an des JO. Renaud, il fait ce qu'il veut. Il est comme ça. Et ça peut être, si demain il lui arrive quoi que ce soit, tout le monde dira ah ouais, mais en même temps c'était un inconscient, c'est Renaud. C'est ce qui fait qu'il est totalement incomparable avec n'importe quel autre. On peut absolument pas, par exemple, comparer le parcours d'un Renaud Lavillenie avec celui qu'avait un Sergei Bubka. Incomparable.
Maryse, tu parlais de Usain Bolt qui lui faisait sa rentrée. Il a pas beaucoup couru, ça, c'est le moins qu'on puisse dire ces derniers mois. Il a fait deux fois un 100 mètres hier, hein. Le premier en série 9,87 et il a remis ça en finale, enfin ce qu'on ne va pas appeler une finale sur le meeting de Londres,
oui,
en 9,87 aussi.
Oui.
Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait Jimmy Vico dans la course qui fait cinquième en 9,98. Bon, ben Bolt remontre qu'il sera un candidat au titre, même si avec 9,87 ça suffit pas, mais quand c'est une course de rentrée, 9,87, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça, voire personne.
Alors déjà, il faut savoir que Usain Bolt a couru deux fois plus hier que en un an, puisque il doit être épuisé puisqu'il a fait deux courses en moins d'une heure. Il avait couru le 23 août 2014 à Varsovie en 9,98. C'était sa seule course en 2014 sur 100 mètres. Après, il avait fait des relais. Et il avait couru également le 19 avril à Rio de Janeiro en 2015, en 10-12. Donc, ce sont ses seules compétitions en maintenant 12 mois. Et tout d'un coup, effectivement, il se prépare et il sort à Sainsbury, donc à Londres, en 9,87 en série avec un vent défavorable fort, hein, d'ailleurs, hein, puisque moins d'un mètre devant défavorable, c'est quand même pas mal. Et la même chose en finale, encore avec un vent défavorable, avec la manière, avec une piste mouillée. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que voilà, encore un autre exceptionnel qui construit sa carrière alors tout à fait différemment justement de Renaud Lavillenie. Lui, il arrive à une période où il est un peu plus en délicatesse physiquement, où il a des petites alertes et où il décide que chaque fois qu'il sort, c'est pour gagner et qu'elles seront très mesurées, ces sorties. Donc c'est vrai qu'en 2013, il n'y avait pas vraiment d'objectif, donc il n'est pas sorti. Il avait tout misé sur les Jeux de Londres et là, je crois qu'il mise tout sur les championnats du monde.
Eh bien, on va écouter notre co-recordman d'Europe du 100 mètres, Jimmy Vico, qui était donc dans la course hier avec Bolt. Vico a fini 5e en 9,98. Qu'est-ce qu'il a pensé de la rentrée du Jamaïcain ?
Il a fait une grosse course encore, un gros finish. Quand j'ai revu la course sur l'écran, c'est Mike Rogers qui prend un très bon départ et lui, c'est un très bon finisseur. Donc je pense qu'il doit être rassuré lui-même et que maintenant, il dévise Pékin. Hein.
Voilà, Jimmy Vico avec Damien Gozioso. Et on a l'eau à la bouche quand même, Maryse, pour l'affrontement Gatlin-Bolt. On ne l'aura pas eu avant Pékin, on l'aura à Pékin.
Oui, 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 ça c'est effectivement, tout le monde attend ça parce que Justin Gatlin est sans concurrence réelle depuis le début de l'année, même si Asafa Powell se rapproche, hein. Il grignote petit à petit, il est à 9,81 alors que Justin Gatlin est à 9,74, mais en confrontation directe, c'est toujours Gatlin qui l'emporte. Donc c'est vrai qu'on attend ça, mais moi j'attends même bien plus que ça parce que c'est une saison vraiment exceptionnelle. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Les 20 premiers sont sous les 10 secondes, sont en, le 20e est à 9,97, c'est Adam Gemili, le Britannique. Tout le monde est en train de progresser dans la foulée de Gatlin, Powell, Brommel, parce qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, tout est mélangé. Et c'est d'autant plus passionnant que cette fois-ci, on a en plus un Français qui se mêle à cette lutte et qui n'est pas à n'importe quelle place, puisque parmi les 20 qui ont couru en moins de 9,97 ou en 9,97, eh bien on a Jimmy Vico qui est à la quatrième place ex aequo avec Keston Bledman. Et c'est vrai que je voulais aussi mettre un petit focus sur Jimmy, parce que se trouver dans ce groupe de coureurs-là, avant Pékin, avec un suspense qui est vraiment au summum. Je crois qu'on n'a pas eu un tel suspense depuis ces 10 dernières années entre Gatlin d'une part et Bolt, qui va l'emporter, et puis de l'autre côté, quelle place va réussir à s'offrir Jimmy Vico dans ce concert de super-héros. Moi, je trouve ça assez fascinant, quoi. On a un Jimmy Vico qui a couru 9 fois en moins de 10 secondes, donc 4 fois cette année déjà.
Ouais, c'est super, et on vivra ça à partir du 22 août, et ce sera sur RMC. Ce sera avec toi, Maryse, merci beaucoup. Maryse,
eh ben, bonne soirée.
Très vite, juste, on parlait du foot. Lyon, toujours mené 5-0 par Arsenal en match amical. Et puis le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018, ça se précise pour la France, puisqu'on connaît une partie de son groupe. On connaît pas encore l'adversaire le plus fort. Mais on sait déjà que les Français joueront contre la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Si Zlatan est encore en équipe nationale à ce moment-là, parce qu'on rappelle que les qualifs commenceront au mois de en 2017. Il y aura la Suède. Il y aura la Bulgarie, il y aura le Bélarus et il y aura le Luxembourg, plus une équipe à déterminer. On rappelle que pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2018, il faudra terminer premier de cette poule ou alors être dans les meilleurs deuxièmes pour aller jouer un barrage, ce qu'avaient fait les Français par exemple pour la Coupe du Monde au Brésil 2014. On vous tient au courant très vite dès qu'on a le dernier tiré dans cette poule de la France. Je rappelle, Suède, Bulgarie, Bélarus, Luxembourg. 18h56 sur RMC. L'Alpe d'Huez, Christophe Cessieux et toute son équipe, avec le sourire, un Français a gagné.
Ah oui, quel sourire, le magnifique sourire de Thibaut Pinot qui a donc remporté cette 20e étape du Tour de France, la dernière étape de montagne. Cette victoire efface-t-elle un Tour de France jusque-là décevant pour lui? Ce sera le thème de notre premier débat, et puis on va évidemment revenir également sur le classement général. Chris Froome a tremblé aujourd'hui, mais il reste maillot jaune de ce Tour de France et il remportera demain le Tour à Paris. A-t-il vraiment tremblé et fait-il un beau vainqueur du Tour? Voilà la question qu'on va se poser avec toute la Dream Team, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon et Cyril Guimard, à ne pas oublier. Ce sera juste après les infos 19h.
RMC Intégral Tour.